Vous écoutez
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Quand on s'est battu, tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais.
C'est parti pour le coup d'envoi avec l'équipe de France, les bleus, tout de blanc, vêtus.
Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Mbappé, contrôle de la poitrine, l'entrée de la séparation, il n'y a pas
élimine,
de main.
Élimine,
Mbappé,
élimine.
Mbappé face à Navas, Mbappé deuxième. Oui, oui, pour le point.
Je vais torturer ce Balboa, je vais le crucifier ce mec, je vais le tuer.
Dani Olmo qui va récupérer le ballon dégagé par Saliba. Yamal à l'entrée de la surface de réparation, la frappe enroulée.
Oh les poux, quel but.
Oh quel but de Yamal. Il a tout simplement nettoyé la lucarne droite.
Quel but
de Mike Maignan, un partout.
Explique à tous ces gens pourquoi tu veux pas te battre.
On se réveille, au bout de quelques années, on se croit le meilleur, mais c'est faux, il sera trop tard.
Navas, le centre, devant le but, ballon dégagé, la tête Saliba, double contrôle, avec la frappe, et le but, contre son camp, de Koundé.
Pour la première fois de ma vie, j'ai peur. Alors quoi, merde, remue-toi.
C'est fini, la France sort de ce tournoi, la tête basse, impuissante, face à un adversaire supérieur.
Regarde leurs yeux, Rocky. Tu vois ce regard? C'est l'œil du tigre. Je vais te péter la gueule. Viens, je t'attends.
Aïe, 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 ça fait mal de réécouter ça, mais c'est pour évacuer les mauvais souvenirs avant de retrouver l'Espagne mardi qui nous a boxé, vous l'avez entendu, lors de nos dernières confrontations. La dernière fois, 5-4 en demi-finale de la Ligue des Nations il y a un an, après avoir été mené 5-1 lors du dernier Euro, une défaite en demi-finale 2-1 où il nous avait fait danser avant le sacre continental des Espagnols. Si la France doit craindre une équipe, c'est nous, a dit Lamine Yamal hier après la rencontre. Les Bleus apprécieront. Les GG, je vous pose la question ce matin. Vous me répondez par oui ou par non. Même toi, Fred. Est-ce que France-Espagne est devenu notre classico? Pascal.
Oui.
Jérôme.
Oui.
Pierre.
J'ai envie de dire non, mais oui.
Non, mais oui. Sarah.
Tous les ingrédients pour un oui.
Fred Hermel.
Si,
c'est vrai. Oui. Le classico France-Espagne. Ici, on commence à l'appeler comme ça, celui-là aussi, pour les nations. Supporters des Bleus, vous débattez avec nous au 32-16 ou par message sur WhatsApp au 06-12-424-424. Florent Germain, avec nous depuis Boston, au plus près des Bleus pour RMC. Salut Flo.
Salut Georges, salut les GG, salut à tous.
Salut Flo.
Florent Germain, les Espagnols ont battu les Bleus sur les deux dernières confrontations à l'Euro et en Ligue des Nations. Ce sont des défaites que nos joueurs ont encore en travers de la gorge.
Oui, forcément, un goût de revanche, surtout par rapport à la demi-finale de l'Euro d'ailleurs. Côté français, j'ai regardé, il y a quand même 9 potentiels titulaires de mardi à Dallas qui ont joué ce match il y a 2 ans. Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Mbappé bien sûr, et Barcola qui était entré en cours de jeu. Donc c'est une demi, on s'en souvient, que l'Espagne avait maîtrisé avec un Lamine Yamal qui n'avait pas apprécié les propos de Rabiot la veille. Rabiot disant que Yamal était encore un petit peu jeune. Yamal avait marqué, il avait été intenable, il y avait déjà de l'électricité dans l'air. Et puis c'est une compétition, on le sait, pendant laquelle les Bleus et surtout Didier Deschamps avaient été très critiqués pour le peu de spectacle, pour le niveau de jeu de l'équipe de France, et en plus avec le cas Kylian Mbappé, le nez cassé, le masque qu'il avait enlevé d'ailleurs avant en France-Espagne, et globalement donc un capitaine des Bleus qui aura soif de revanche par rapport à cette compétition et à ce France-Espagne. Bon, les deux équipes s'étaient retrouvées en Ligue des Nations au terme d'un match fou. L'Espagne avait gagné 5-4. C'était en gros le rodage du quatuor offensif et des quatre attaquants de Didier Deschamps. C'est le moment de prouver, voilà, effectivement, que les Bleus sont bien mieux désormais et qu'ils sont tout simplement meilleurs que l'Espagne.
Ah, très bien, ça c'est toi qui le dis. On verra tout à l'heure les dernières infos sur l'équipe de France. France-Espagne est-il devenu notre classico? Tiens Fred, on profite de ta présence. Tu as longtemps vécu de l'autre côté des Pyrénées. Est-ce que pour les Espagnols, c'est un classico? C'est un grand match de jouer la France. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux?
Oui, alors déjà, d'un point de vue sportif, la France est un pays très respecté aujourd'hui au niveau football. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais il y a quand même le meilleur joueur français, il joue à Madrid, faut pas l'oublier.
Oui.
Il y a beaucoup de joueurs, il y a Koundé, qui joue au Barça, il y a Tchouaméni. Enfin voilà, il y a une culture de joueurs français en Espagne importante. Mais moi, j'aimerais me placer sur le côté un peu culturel. C'est-à-dire que je pense que l'Espagne est un rival pour la France depuis moins longtemps que la France est un rival pour l'Espagne.
Ah oui?
C'est-à-dire que nous, on est en train de découvrir une rivalité par rapport aux Espagnols, mais les Espagnols ont culturellement une rivalité historique par rapport à la France. Vous savez, l'Espagne, c'est un pays qui a été pauvre pendant de nombreuses années, où les Espagnols immigraient en France et dans d'autres pays pour aller chercher du travail. C'est un pays qui était une dictature. C'est un pays qui avait pas mal de problèmes. C'est un petit, et puis c'est un pays qui regardait toujours vers le grand frère du Nord, avec parfois un petit complexe d'infériorité. Donc c'est resté cela. Il y a aussi le souvenir des guerres napoléoniennes. Il faut pas oublier qu'il y a
Tu remontes loin.
Oui, mais sauf qu'on en parle encore toujours aujourd'hui. Napoléon, entre 1808 et 1813, avait placé son frère José Bonaparte comme roi d'Espagne. Le roi d'Espagne avait été imposé par Napoléon. On l'appelait Pepe Botella, Pepe la bouteille, parce que il aimait bien picoler. Non, mais vraiment. Donc Pepe Botella aujourd'hui, Pepe Botella, on en parle encore dans la culture. Donc il y a
un truc historique.
Il y a un truc historique
de rivalité.
Il y avait, sous le franquisme, il y avait une série télé qui était Curro Jiménez, qui était un héros espagnol. C'était un Thierry Lafronde anti-français.
Donc il y a vraiment quelque chose.
Oui, il y a une vraie rivalité.
Et puis il y avait le fait aussi que la France battait l'Espagne. Et il y a eu la finale de l'Euro de Platini.
Mais voilà,
Arconada.
Il y a eu le Canada en 84. Donc il y a tout ça. C'est-à-dire que l'Espagne a toujours eu un peu un certain complexe. Donc ça reste. Alors, les choses se sont bien équilibrées depuis notre
ça a été surtout en basket, hein, la rivalité.
Et voilà, j'allais y venir. Le basket est très très important. Moi, je me souviens le championnat du monde, le dernier championnat du monde en Espagne. Je suis allé à des matchs. Le France-Espagne, c'était chaud. Enfin voilà, on est dans une rivalité. Je vais dire qu'elle était liée avant à un certain complexe espagnol, historique et culturel. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la rivalité purement sportive, parce que dans des sports majeurs comme le basket et le foot, on est à peu près au même niveau.
Et une rivalité qui s'équilibre effectivement, parce que la France a été battue par l'Espagne ces dernières années. Exactement. C'est ça aussi qui fait peut-être que ça en devient un classique, Pascal, pour toi?
Bah en fait, hier, en y réfléchissant, je me suis dit oui, l'Espagne, même si pour moi il y avait match avec l'Argentine, mais l'Espagne, comme l'a très bien dit Fred, c'est notre pays voisin. Pour nous, en tout cas pour moi, je trouve les Espagnols extrêmement présomptueux. Je parle du foot, hein, et des joueurs de foot. Ils sont sûrs d'eux, ils ont raison de l'être. On donne le change à ce niveau-là, et nous devons le reconnaître. Il y a aussi les antécédents, vous en avez parlé, les derniers résultats, qui sont favorables à l'Espagne. Il y a aussi culturellement ces joueurs, et notamment des Français, qui sont naturalisés espagnols. Laporte en est l'exemple. Et il y avait aussi Lejeune, qui n'est pas parmi la sélection, mais qui a été un Français sélectionné. À un moment donné, la charnière centrale, il y a, je crois qu'au dernier championnat d'Europe, c'était deux Français nationalisés qui jouaient derrière.
Le Normand et
Il y a une histoire liée jusqu'aux joueurs. Mais toi, Pascal, t'as grandi avec les France-Allemagne, notamment les grandes confrontations. Oui, aujourd'hui, le France-Allemagne, c'est le France-Espagne, en fait.
Ben oui, parce que ça fait plusieurs années que maintenant la France et l'Espagne sont dans le top 4. Avant c'était l'Allemagne, mais l'Allemagne a disparu et l'Allemagne ne concurrence plus la France. Donc bien naturellement, ce sont les Espagnols qui ont emboîté le pas, qui les ont supplantés. Et on a toujours maille à partie, donc tout le monde pense que ça va être difficile contre l'Espagne. On a tous raison de penser que ce match va être indécis. Et ça ajoute donc à cette rivalité. Griezmann, par exemple, qui fait toute sa carrière en Espagne, ou quasi toute sa carrière en Espagne alors qu'il est joueur français. Et puis Fred l'a aussi rappelé, ce nombre de joueurs français qui jouent dans les grands clubs espagnols, tout ceci fait que la rivalité va être exacerbée.
Alors,
et
qu'on attend ce match avec impatience. Pascal qui me dit au 06 12 424 424, je suis pas d'accord sur le principe du classico. Rivalité peut-être, et encore, parce qu'il n'y a pas eu peut-être encore assez de moments trop chauds entre les équipes. Pierre, toi tu dis que t'es pas encore d'accord sur le fait que c'est un classico.
Non, je dis pas que je suis pas d'accord, mais il manque encore un peu de grandes histoires, même s'il y a deux.
Il faut un Schumacher, c'est ça?
La sortie Schumacher en 82, le France-Allemagne. Non, mais c'est vrai,
sur
peut-être.
Jean-Baptiston.
Non, mais oui, mais là où c'est intéressant, c'est que ces deux nations qui, sportivement, on l'a dit dans le basket, c'est vrai dans le foot, ont depuis longtemps une rivalité parce qu'elles sont fortes dans les sports collectifs. Et donc, il y a cette culture des sports collectifs dans deux pays qui se ressemblent sur plein d'aspects et qui sont voisins, ça a été dit. Aujourd'hui, collectivement, ça me paraît une des équipes les plus les plus en capacité de tenir tête à la France, l'Argentine. Enfin, après les spécialistes débattront là-dessus.
Mais t'as plus envie de battre l'Argentine que l'Espagne.
Non. mais je trouve que c'est collectivement c'est plus intéressant l'Espagne. Et donc ça ressemble plus finalement à l'équipe de France. Il y a plus de talent, mais voilà. Donc
comment on construit une rivalité, Pierre? Parce que toi, quand tu joues au Stade Français, votre grand rival, c'était Toulouse.
Oui, c'est Toulouse.
C'est quoi, c'est petit à petit la rivalité se construit aussi sur les histoires entre vous.
Bah, c'est la répétition des matchs.
Ça se charrie, là, on voit, il y a Mal qui charrie un peu. Ça marche aussi avec
ça. Ils se connaissent, bien sûr. Ça, il faut que ce soit un peu explosif.
Les Toulousains, tu les supportais pas quand ils étaient un peu arrogants?
C'est arrivé, mais ils étaient bons aussi. C'est ça le problème. Je crois que ça se construit avec l'histoire. Il y a déjà des antécédents, on l'a dit. Maintenant, peut-être que ça deviendra un classico après cette demi-finale.
Ouais, parce que là, c'est la deuxième fois seulement qu'ils s'affrontent en Coupe du Monde. On rappelle la dernière fois, c'était en 2006. Jérôme, est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse parler de classico? Est-ce que justement les déclats de Yamal, là, et même des Espagnols en général, même si Luis de la Fuente a été plus sympa, ça pique un peu justement la rivalité franco-espagnole qui n'existait pas vraiment peut-être en foot jusqu'à maintenant, Jérôme?
Non, mais elle est en train de se construire, tout simplement aussi parce que l'histoire moderne fait que les deux équipes nationales se retrouvent sur le toit du monde ou le toit de l'Europe au moins, et que ces deux équipes-là, lors d'un championnat d'Europe ou d'une Coupe du Monde, on sait que c'est le très gros adversaire depuis le début de cette Coupe du Monde. On le dit, attendons avant de rencontrer l'Espagne. On attend tous finalement ce match. Un classico, c'est aussi ça. C'est vivement la rencontre. On le vit un Paris Saint-Germain-Marseille ou Marseille-Paris Saint-Germain en Ligue 1. Mais même si on sait maintenant qu'il n'y a plus match, on attend ce match-là. Et je pense que France-Espagne est devenu ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos joueurs jouent là-bas, beaucoup de leurs joueurs sont nationalisés espagnols. On a cette proximité, et puis même dans le championnat et dans la Coupe d'Europe, la Champions League, nos clubs se rencontrent, et on sait qu'à chaque fois, que ce soit le Barça ou que ce soit le Real, il y a match et c'est un match important.
Tu penses qu'il y a un sentiment de revanche, Jérôme? On parle de l'Euro et tout ça.
Ouais, il y a le sentiment de revanche, et puis il y a le sentiment de vous avez vu, nous, on gagne en club et en équipe nationale. Il y a cette envie de montrer à l'Espagne qu'on est les meilleurs. Parce que pendant quelques années, l'Espagne a été intouchable, a été plus forte que l'équipe de France. Ça s'est retourné. Et aujourd'hui, il y a les joueurs français et la France a à cœur de montrer qu'ils sont plus forts que les Espagnols. Et Lamine Yamal, il rentre dans ce jeu-là et il dit, on les a éliminés. C'est normal. Ouais. Il vit de ça. Il se nourrit de ça. Et plutôt, c'est plutôt espagnol ce côté-là. Si un Français fait les mêmes déclarations, on dit que c'est un coq, on dit qu'il a les pieds dans la merde et la gueule ouverte. Mais l'espagnol, il a le droit. Donc on verra.
On en a parlé cette semaine dans El País. Il avait dit je sais que les gens me voient fort, mais moi, je me vois encore plus fort. Sarah, toi, ça te plaît les petites piques là, comme ça, sur l'histoire qui est en train de s'écrire avec les Espagnols?
Mais oui, parce qu'en fait, c'est les ingrédients. Pour qu'il y ait une rivalité, il faut qu'il y ait une forme de récurrence. Il faut que ces rencontres, elles soient récurrentes, et encore plus finalement quand c'est des matchs décisifs, c'est quand c'est des matchs à élimination directe. C'est là que se construit les grandes rivalités. En vous écoutant, il y a des comparaisons. Par exemple, en rugby, Pierre, on parle de crunch entre la France et l'Angleterre. Pourtant, on a quand même une rivalité avec la Nouvelle-Zélande. Mais comme le France-Angleterre, il est beaucoup plus récurrent, c'est là que les grandes histoires se sont écrites.
Les France-Argentine, ils ne seront pas aussi récurrents, par exemple.
Ils ne seront pas aussi fréquents. Ça ne pourra être qu'en Coupe du Monde, en fait. Alors qu'avec l'Espagne, effectivement, ce que vient de dire Jérôme, cette rivalité, elle existe. Elle se construit quand même en Ligue des Champions, même si on parle de club, on a le championnat d'Europe et cette Coupe du Monde. Et en plus de ça, c'est quand t'as des oppositions entre des personnalités. Et le Mbappé Yamal, oui, c'est une génération qui est en train de s'affronter.
Non, mais t'as raison. Et ce sont aussi les générations, enfin des histoires récentes qui peuvent construire des rivalités. Regarde, Pierre a la raison. Sarah,
bien sûr.
Le France Springboks, par exemple, avec l'Afrique du Sud, on n'avait pas une grande rivalité peut-être contre eux. Il y a des trucs qui commencent à se créer. Une rivalité, ça se crée aussi.
Mais il faut que ça se répète, en fait.
Voilà, exactement.
Il faut que ça se répète régulièrement.
Et puis les petits ingrédients, comme disait Sarah.
les injustices arbitrales
dont tu parles, voilà.
Ouais. Moi, je sais pas si on en a assez encore avec les Espagnols, peut-être. Fred, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, pas encore, pas encore. Mais il faut pas grand-chose. Hein. Ouais. Et là, je pense que ce match-là,
on y est quand même.
Là, c'est la finale de Coupe du Monde. L'Espagne, la France vient d'une finale de Coupe du Monde. L'Espagne vient de gagner l'Euro.
Mbappé qui joue en Espagne, qui est la star du Real. Yamal qui est la star du Barça.
Mais certains Espagnols vont soutenir la France.
Quoi?
Scoop.
Pourquoi? Ah bon?
Oui, mais
parce qu'il n'y a pas de joueurs du Real.
Et ceux qui sont à Madrid, Fred.
Certains très pro-Madrid vont soutenir la France pour Mbappé.
En fait, ils ne disent pas qu'ils vont soutenir la France, ils vont préférer que l'Espagne perde.
Voilà, puis surtout,
pourquoi
elle était avec le Portugal pour Cristiano? Parce qu'il y a une vraie bisbille entre le Real et la fédération.
Mais comme il y a beaucoup de Madridistes qui ne veulent pas que l'Argentine gagne pour Messi.
Aussi, par exemple. Voilà, oui, ça aussi. Non, mais là, le cas, c'est ton pays, tu ne soutiens pas. Alors, je dis pas que c'est une majorité. Je parle que c'est quelques cas.
Parce qu'on rappelle qu'on est quand même soutient les clubs avant la sélection. Il y a une culture club.
Les clubs sont toujours plus importants que la sélection.
C'est fou.
Et d'ailleurs, l'amour pour la sélection, c'est depuis 2008, depuis que l'Espagne gagne. Avant, on s'en foutait un petit peu en Espagne. La sélection. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein.
Oui, mais ça dit quelque chose aussi. Hein.
Moi, j'ai vécu avant. Et là, aujourd'hui, vous avez une partie pas importante, mais qui existe réellement, de supporters du Real qui vont tenir avec l'équipe de France parce qu'il n'y a pas de madridiste dans l'équipe, parce qu'on considère que Luis de la Fuente est anti-madridista, tout comme l'était Luis Enrique avant. Non, mais
j'adore les récits.
Mais
des balles dans le pied.
C'est ça l'Espagne, c'est un pays de tête de foot et donc tout ce genre d'éléments compte. Donc, toute l'Espagne derrière la Roja, non, une petite partie d'irréductibles espagnols seront pour les Français.
Oh là là là, je sens qu'on va avoir plein d'histoires à se raconter après ce match entre la France et l'Espagne, Pierre.
Après, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Faut aussi avoir dans le contexte que tous les mecs qui sont souvent être sur le terrain, qu'ils soient pour l'Espagne ou pour la France, ils veulent gagner cette Coupe du Monde pour des raisons différentes. Donc, classico ou pas classico, à ce niveau,
oui, voilà,
la partie demi-finale de Coupe du Monde.
Peu importe ce qui entoure le match. Après, ce qui est bien, c'est qu'on rentre dans quelque chose de plus individualiste sur des histoires perso. Voilà. C'est aussi ça qui fait.
Avec Yamal, en plus, qui n'a pas assez marqué le mondial, lui, pour l'instant.
Mais c'est la seule grande déception par rapport aux grands joueurs. Messi est là, Mbappé est là, Haaland est là, Bellingham est là.
Pour l'instant, plus là.
Comment?
Allons-y,
non, mais je veux dire, il a fait un super mondial.
Bien sûr.
Mais Lamine Yamal, pour l'instant, il n'a pas explosé, hein. Bon, il revenait de blessure, etc. Donc,
c'est ça qui va créer aussi peut-être les grands moments d'électricité.
Et la dramaturgie du match. S'il y a, je sais pas, des contestations, des VAR utilisés, des pénaux qui sont pas validés, la dramaturgie d'un match va marquer les gens qui vont le regarder, et c'est ça qui te crée des souvenirs et qui font que ça cultive aussi une rivalité.
Ah, c'est ça, on n'a pas eu de prolongation.
Si l'équipe de France gagne 4-0, tant pis pour eux, mais je suis pas sûr qu'on soit marqué par ça, quoi.
De tir au but face à l'Espagne ou un truc comme ça,
un truc comme ça.
On verra ça. Effectivement.
Ce qu'on a eu avec l'Argentine
d'une manière complètement dramatique.
Et qu'on a eu avec l'Allemagne aussi. Hein, ouais. Donc,
exact. Aussi,
et qu'on a eu avec l'Italie également. Aussi. J'ai des messages là-dessus. Hein. Pour l'instant, nos rivaux, c'est encore l'Allemagne et même l'Italie. Parce que l'Italie nous a battu en finale de la Coupe du Monde. Avec ce qui s'est passé avec Zidane,
c'est une question d'âge aussi.
Mais oui.
C'est-à-dire que moi, au départ, mon grand rival, moi, je découvre le foot vraiment en 82, j'ai 12 ans, c'est le France-Allemagne à Séville. Donc, Battiston, Schumacher, etc. Donc, pendant longtemps, j'ai cru à c'était le rival à battre. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai parce que l'Allemagne est moins forte que nous. Donc.
Oui, mais peut-être que pour la jeune génération, ils vont voir Lamine Yamal comme le némésis des Français pour les années à venir. Fred, merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, les amis.
Évidemment, ton cœur balance pour ce match.
Ça va pas, non.
Évidemment, allez, les bleus.
Après, on espère pas de dramaturgie ou quoi. Et si on gagne 3-0,
ça nous ira quand même.
Pas de péno, rien.
Et Pierre, justement, dans un instant, on va se demander si la France est favorite pour cette rencontre. Allez, on se met dans l'ambiance, hein. C'est la Coupe du Monde, c'est la fête, les amis. France-Espagne, J-2, demi-finale de la Coupe du Monde à vivre sur RMC, évidemment, on est avec les GG. Et vous, au 32-16, on vous donne la parole dans un instant. A tout de suite, merci Fred.
RMC jusqu'à midi.
Le crochet de Dembélé, la frappe de Dembélé, et le but.
Les grandes gueules du sport.
La frappe de Dembélé. Oh, quel but! Par contre, là, la frappe, et le but.
Vous êtes n'êtes pas content, triplez.
Ah bah Kylian, si tu fais ça, ça nous va très bien. Hein. Face à l'Espagne, la température monte, pas seulement parce que c'est la canicule, mais parce que ce match face à la Roja va être bouillant à Dallas, mardi à 21h. Les grandes gueules du sport avec Pierre Rabhadan, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault et vous au 32-16 et sur WhatsApp. J'ai plein de messages hein, sur est-ce que la France-Espagne est un classico. El Loco me dit, il n'y a pas eu assez de contentieux encore comme au basket avec cette équipe espagnole, notre adversaire absolu. C'est encore clairement l'Argentine, hein, un peu comme tu le sous-entendais. À cause de ce qui s'est passé il y a 4 ans, même chose pour Pierre sur WhatsApp, un autre Pierre hein, qui me dit c'est peut-être encore un peu trop. C'est vrai qu'on a l'Allemagne 82, l'Argentine ou même l'Argentine et l'Angleterre, ce qu'ils ont connu entre eux, c'est pas le niveau que l'on a encore entre la France et l'Espagne. Martial nous dit il nous faut une petite dramaturgie. C'était un peu dans le sens de ce qu'on disait il y a quelques instants.
Une revanche, tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu sais, t'es énervé, t'as envie de.
Il nous agace, mais il nous énerve pas encore. Hein, peut-être les Espagnols. Tiens, je voudrais qu'on écoute Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, parler des Français il y a quelques jours. Écoutez.
Bien sûr, il est légitime et juste de penser que nous allons travailler pour essayer de battre la France. Je pense qu'ils seront tout aussi inquiets. Nous sommes la seule équipe du monde à avoir remporté 2 matchs consécutifs. Nous l'avons fait, mais ce troisième sera différent. J'insiste, on va affronter une très grande sélection.
Nous sommes la seule équipe à avoir gagné 2 matchs consécutifs contre la France, hein, veut dire Luis de la Fuente. La France est favorite, Pascal ?
Oui. Par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début de la Coupe du Monde, je pense que l'Espagne est en dessous de l'équipe de France. Elle, bien sûr, elle s'est qualifiée, c'est en toute logique qu'elle est arrivée jusqu'aux demi-finales. Mais malgré tout, l'Espagne n'a pas montré ce qu'elle montrait en 2024 ou en 2025. Et à contrario, la France marche sur l'eau. On disait que la défense française était, par exemple, le point noir. Je trouve que depuis la Coupe du Monde, la défense française assure et monte en puissance. Alors que j'en dirais pas tant des Espagnols. Pour autant, ces Espagnols qui n'ont pris qu'un but depuis le début de la compétition, mais je me languis de voir la défense espagnole affronter les
Mbappé, Olysée,
les gazelles, les extraterrestres offensifs français.
Attention, ils ont du monde en défense aussi avec Correa sur le côté avec Pedro Porro aussi et la défense avec Cubarsí et Laporte. Et on le prend ce statut de favori, Jérôme, ou il faut pas l'assumer justement pour pas énerver les Espagnols.
Mais il faut le prendre, évidemment qu'il faut le prendre. Il faut juste pas en débattre dans les médias pour les joueurs.
Ah ouais, il faut pas qu'on le dise trop fort pour pas que les joueurs qu'on les énerve.
Ce que fait Yamine Lamal, par exemple, ou les joueurs espagnols, ça sert à rien. Ils savent très bien qu'à ce niveau-là, ça va pas faire perdre pied à qui que ce soit. Ça va pas faire trembler le calcif d'Mbappé d'entendre Yamal qui dit on va vous battre.
De qu'est-ce qu'ils vont faire les joueurs ? De bomber le torse, comme le fait Yamal.
Mais non, c'est peut-être un peu de provoque et peut-être, mais les joueurs sont ultra professionnels. Ils ont pas pété les plombs contre le Paraguay, quasiment pas pété les plombs. Ils ont entendu beaucoup de déclarations dans les matchs précédents et pourtant ils ont gardé leur nerf, ils ont réglé leur compte sur le terrain. Donc, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Peut-être que lui a besoin de se rassurer et besoin de se dire qu'on va gagner. Mais franchement, cette rivalité, elle est sur le terrain. Elle est parmi les joueurs qui vont se taper dans la main et qui vont se prendre dans les bras parce que c'est à peu près comme ça que ça va se passer à la fin du match. Mais il n'y a pas besoin d'en rajouter. Les joueurs sont ultra motivés. Pierre, tout à l'heure le disait, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Il n'y a pas besoin d'être surmotivé pour gagner une demi-finale de
Pierre,
Coupe du Monde.
Pierre, t'as pas affiché des éclats de joueurs du Stade Toulousain en tant que capitaine du Stade Français avant un match pour énerver tous tes potes? Non, il est motivé. Non, mais ça existe ça ou c'est entre journalistes?
Je pense qu'ils se sentent un peu plus faibles que la France, les Espagnols.
C'est une déclaration peut-être.
Je suis pas d'accord avec toi.
Quand tu vois le matos qu'on a, mais je veux dire, il y a mal, évidemment. On parle tous de Yamal, mais après en ressources offensives, je veux dire, nous, quand tu mets les deux équipes sur le papier, quand même, tu te dis que on est quand même mieux armé.
Tu prends pas forcément un Espagnol dans le 11 français, quoi.
En tout cas, pas devant.
Pas devant. T'es pas d'accord, Pascal ?
Non, je suis pas d'accord. Les Espagnols sont trop fiers pour considérer que la France est favorite. Non, Yamal, il est juste dans son rôle. Et là, encore une fois, je suis non plus pas. pas d'accord avec Jérôme, parce que j'imagine que les Français très professionnels et qui, dans leur communication pour l'instant, ne répondent pas aux quelques provocations espagnoles, je suis certain que les Français, même si c'est une demi-finale de Coupe du Monde, même si la motivation sera naturelle, de jouer les Espagnols et de pouvoir faire en sorte que Yamal baisse d'un ton,
ils en ont envie. En fait, ça, même s'ils ne vont pas le dire, moi je peux pas croire que les joueurs de l'équipe de France, ils ont pas vu ce qu'a dit Yamal.
Mais bien sûr qu'ils l'ont bien vu, ils l'ont noté, ils vont sûrement s'en parler toute la semaine et évidemment ça va agiter la préparation du match. Après moi je trouve que Yamal se prendre cette position, ça montre une certaine fragilité un certain complexe par rapport à la France.
Parce que quand t'es capitaine d'une équipe comme ça, si tu vois un de tes joueurs dire ça, tu dis mais les gars, il faut pas donner des armes aux autres. Mais
t'as pas besoin si t'es serein.
Ouais.
Et je pense que Yamal n'est pas très serein. Ou il a envie de s'étalonner. Après, ça dépend des caractères.
On va voir si ça va compter.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le seul, on va dire, la seule star qui n'est pas au rendez-vous en termes de but. Donc ça compte aussi. Yamal, il sait très bien qu'il n'est pas à son meilleur niveau parce qu'il a été arrêté 2 mois avant la fin.
Il a besoin de faire du bruit
de la Liga. Ouais. Et il a tout approuvé et il piaffe d'impatience de montrer qu'il est là. Reste à savoir s'il en a le potentiel athlétique. Voilà, ça vient en douceur, c'est mieux ces derniers matchs que les premiers, mais à mon avis, il n'est pas encore à niveau.
Mbappé n'a jamais battu Lamine Yamal en match à élimination directe, en 5 matchs avec la France ou avec le Real face au Barça. C'est une stat qu'on va voilà,
c'est une belle stat.
On l'oublie. Yamal un but sur le début de cette Coupe du Monde, ça c'est une meilleure stat seulement. Tiens, on a Julien au 32-16 avec nous. Salut Julien, tu nous appelles d'Aix-en-Provence.
Tout à fait, bonjour. Je voulais saluer Pascal Dupraz. Donc j'aime beaucoup les analystes, donc voilà, ça s'est fait.
Nous aussi, on l'aime bien.
Bah, merci.
Il est là encore.
Avec plaisir.
C'est un classico pour nous, Julien, là, mardi.
Alors pour moi, pas du tout. Pour plusieurs raisons. En fait, historiquement, on n'a jamais été tous les deux au top avec l'Espagne. Quand l'Espagne nous a battus, ils sont meilleurs que nous. Quand on les a battus, on est meilleurs qu'eux. Oui. Il y a peut-être 2 matchs historiques, on va dire France-Espagne, dans des compétitions internationales, à savoir 84 avec Arconada et 2006 quand ils voulaient envoyer Zidane à la retraite. Mais c'est très très loin pour moi des rivalités qui sont beaucoup plus culturelles, donc à savoir les France-Allemagne, parce qu'il y a une rivalité à la fois footballistique et peut-être un peu plus culturelle que ça également. Des France-Italie, où la genèse de l'équipe 98 s'est faite en Serie A, qui était le plus grand championnat du monde à l'époque. Et éventuellement France-Angleterre, où paradoxalement, s'il n'y a pas eu de match très fondateur France-Angleterre dans une grande compétition.
On les a surtout battus en fait, Julien, les Anglais.
Voilà, ouais. C'est ça. Mais il y a quand même une rivalité culturelle. L'Espagne, on est quand même beaucoup plus proche d'eux. Et comme je disais, on n'a jamais été au top en même temps. Donc pour moi, il n'y a pas cette rivalité.
Mais on pressent un truc quand même. Voilà. Tu ne pressens pas un truc là, Julien? Quelque chose est en train de se créer?
Je pense tout à fait que ça peut faire un gros match avec les déclarations de Yamal, avec Deschamps qui meurt d'envie de faire une troisième finale de Coupe du Monde, ce qui serait absolument historique. Et ça peut être un match fondateur et qui donnerait le début d'une rivalité. Mais à l'heure actuelle, pour moi, elle n'existe pas encore
pour toi. Bon, c'est vrai que c'est un peu le sens de notre discussion qu'on a eu depuis tout à l'heure, hein, et que je vois beaucoup sur WhatsApp, où on parle plutôt de l'Argentine. On va en parler tout à l'heure. Tiens, c'est important de savoir les forces en présence, hein, aussi pour notre équipe de France. On est à 2 jours du match. Florent Germain, qui est au plus près des Bleus à Boston. C'est quoi les dernières infos, Flo?
Alors, les dernières infos, c'est que Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni ont participé normalement à l'entraînement d'hier à la Bentley University, donc près de Boston. Ça, c'est important. Une séance légère, certes, mais on a vu quand même un Kylian Mbappé avec le sourire, pas gêné du tout dans ses frappes de balle. Donc, tout ça est très rassurant en vue de sa forme physique suite au coup reçu à la cheville contre le Maroc en quart de finale. À noter les absences de Dayo Upamecano et de William Saliba, mais aucune inquiétude, nous dit le staff de l'équipe de France. Voilà, juste une question de repos et de gestion. Et puis Tchouaméni, donc on l'a dit, qui était là, qui était avec les remplaçants, certes, car il n'a pas joué les 2 derniers matchs, mais il était à l'aise dans ses prises d'appui, dans ses enchaînements avec le ballon. Donc il est remis de sa blessure à l'adducteur et il postule lui aussi pour une place de titulaire mardi. Les Bleus s'envolent en fin de journée pour Dallas.
Dallas, où tu seras, Flo, avec toute l'équipe RMC qui suit l'équipe de France. Bon vol jusqu'au Texas, franchement, mais même l'endroit, Dallas, France-Espagne, je trouve que ça claque quand même. hein, pour une demi-finale de Coupe du Monde. On a l'impression qu'on a tous les ingrédients pour que ça envoie grave dans deux jours sur RMC à 21h. Voilà les informations pour ce France-Espagne. On a beaucoup de messages sur WhatsApp, évidemment, hein, où on est avec les Bleus à fond. Il y a un enthousiasme quand même assez important. Hein.
Là, forcément.
Là quand même.
Tous les ingrédients sont là, quoi. Ah, mais maintenant, il faut gagner, hein, les gars.
Non, mais c'est ça. Vous rendez compte, là, peut-être que dans une semaine, je vais pas le dire.
Ne dis pas.
N'attendez-le pas.
Ouais, mais peut-être que dans une semaine, ça peut être n'importe quoi. Peut-être que dans une semaine, vous voyez votre frère, votre soeur.
Peut-être.
Tu vois, peut-être que dans une semaine, Paul Sexa, c'est maillot jaune. Je sais pas, hein, Jérôme.
C'est ça. Là, il va falloir qu'il se passe beaucoup de choses, là.
Peut-être que dans une semaine, un Français gagne un grand chelem en tennis.
Ce sera plus probable que la France remporte l'Argentine que Sexa, c'est maillot jaune.
D'ailleurs, on me fait remarquer sur WhatsApp, et je remercie d'ailleurs les nombreux messages que j'ai reçus, notamment de Zlatan. C'est peut-être le vrai, hein. Il a notre numéro, 06 12 424 424, il est aux États-Unis en ce moment. Il me dit: salut les GG, aujourd'hui c'est le 28e anniversaire de la victoire en Coupe du Monde contre le Brésil. Attendez, 28e anniversaire? 98, 26?
Oui.
Non mais attendez, mais c'est quoi? Mais en fait, le temps passe, une vitesse. On est tous vieux, en fait.
Ça nous met un petit coup de bambou.
Ah, ça nous met un petit coup de bambou quand même. 28 ans de France 98. Et but! Manu Petit, le dernier 3-0 face au Brésil, n'est-ce pas, Jérôme?
Allez,
on se rappelle les bons souvenirs pour se donner de la force avant France-Espagne dans deux jours.